Alors, j'ai reçu la Légion d'honneur, j'ai cru jusqu'au moment où on me l'épinglait à la chemise que c'était potentiellement un canular. parce que, bon, toute une série de raisons, parce que qu'est-ce que. Déjà, je suis beaucoup trop jeune. Pour la Légion d'honneur, s'il y avait un truc dans la vie pour lequel je suis trop jeune maintenant, c'est la Légion d'honneur parce qu'il faut justifier de 20 ans de bons et loyaux services au service de la France. J'avais 41 ans, donc ouais, ça fait presque 20 ans que je travaille, mais ça fait pas 20 ans que ce que je fais atterrit en France. Alors, pourquoi cette décoration? C'est pour, après la lettre que j'ai reçue pour me l'annoncer, mon engagement artistique et personnel en faveur des femmes, quoi. Et c'est vrai que, oui, j'ai un engagement artistique et personnel en faveur des femmes, et que, je prends la médaille. Pour une fois, on va pas s'en priver. On n'a que des claques. On n'a que des claques quand on s'engage en faveur des femmes. Et quand on s'engage tout court, mais en faveur des femmes, là. Très, très peu de... Quand même, c'est un... Si ça doit être un calcul, il est très peu rémunérateur. Alors, j'ai pris le pint.
Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers.
J'ai appris à lire à l'âge de 3 ans. Je viens pas d'une famille très branchée culture, ni très branchée littérature, donc... On avait une bibliothèque à la maison, mais surtout de livres hérités de mes grands-parents, de la propre jeunesse de ma mère. La vision des filles et des femmes dans ces récits était plus que rétrograde. Enfin, je me suis vraiment gavée dès le plus jeune âge des semaines de Suzette de ma grand-mère. Donc, c'est des magazines pour jeunes filles que j'ai encore ici et qui ont été publiés dans les années 20. C'est là que Bécassine est née, notamment Bécassine qui n'a pas de bouche, rappelons-le. Parce qu'elle n'en a pas besoin. Que ferait-elle avec une bouche, cette pauvre servante? Il y avait aussi Lettre d'une tante, donc c'est en fait le courrier d'électrice, qui était peut-être signé, ses réponses au courrier d'électrice, par un homme, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était une tante, soi-disant, qui les écrivait. Et c'était principalement des recommandations à déjà suivre aveuglément l'autorité parentale, être agréable, mince, polie, silencieuse, discrète, enfin inexistante. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs de lecture de quand j'étais vraiment toute petite. Et donc j'ai lu absolument tout ce qui me passait sous la main, du journal des Mickey à Agatha Christie, Tintin, le club des Babysitters, le club des cinq. Je me souviens d'un livre qui m'avait incroyablement fait rêver, qui s'appelait Fanchon, fille de l'air, de la Bibliothèque Rose, écrit, je pense, dans les années 60 par Fernande Ferron. Et c'était l'histoire d'une jeune fille qui voulait absolument voyager et qui remplace sa sœur malade comme hôtesse de l'air dans un avion. Elle a 13 ans, elle se fait passer pour une femme adulte qui travaille et l'avion s'écrase en pleine jungle et elle doit mener un peu la survie des passagers. Oh, ce livre m'a fait mes tellement tripée. À tout point de vue, je crois que je reste à jamais marquée par Fanchon, fille de l'air. Je crois que rien ne m'émerveille plus qu'atterrir dans un pays où je ne comprends rien. Mais effectivement, c'est quand même un loisir et un plaisir assez déjà daté. Je ne sais pas si je suis un exemple particulièrement parlant de ma génération, parce que j'ai été vraiment nourrie de références très vieillottes. Mes parents sont aussi un peu plus âgés que les parents des gens de ma génération. Ils m'ont eu assez tard. Et donc, j'ai été très perméable aux injonctions d'une époque qui n'était plus tout à fait la mienne. Et très perméable aux injonctions de l'époque de mon adolescence aussi, parce qu'à côté de Lisette et de la Semaine de Suzette, c'était la génération Top Model, c'était les séries américaines, les magazines pour jeunes filles, où au contraire de la Semaine de Suzette, on nous invitait à être d'une libération sexuelle totale, d'être vraiment au service de ces messieurs. Enfin, ça, être au service de ces messieurs, par contre, ça, c'était de tout temps. Voilà, dans les magazines pour jeunes filles des années 90, c'était très, très explicite. Mais clairement, c'était des injonctions. Des injonctions. Alors, je pense que j'ai toujours été féministe. C'est un mot que j'ai toujours revendiqué, même ado. Maintenant, je pense que c'était vraiment un féminisme de bébé et un féminisme blanc et un féminisme relativement bourgeois parce que je ne me rendais pas compte que tout le monde n'avait pas la même réalité que moi. Et j'avais un féminisme un peu à la Spice Girl et un peu de girl boss, comme ça, je me disais, ça ne m'arrivera pas à moi. Peut-être que je ne me rendais pas bien compte de la dimension systémique et bulldozer, en fait, du sexisme et de la misogynie. Je pensais que j'allais pouvoir y échapper. Je pensais que j'allais pouvoir échapper aux clichés, aux injonctions et au destin qu'on m'avait préparé. Ça a été le cas jusqu'à un certain point. À l'école et à l'université, bien sûr, j'étais confrontée à une imagerie sexiste et à une division genrée des rôles, mais un sexisme vraiment hostile et très visible. Je l'ai vécu en arrivant dans le monde du travail, en fait, et en travaillant au journalisme. Et je ne m'y attendais pas du tout, d'autant que moi, j'avais cru, en faisant mes études, que le journalisme, c'était une avant-garde intellectuelle, que c'était un creuset de tolérance, d'intelligence. Je pensais que les femmes y étaient accueillies comme des individus et non comme des femmes. Parce que moi, je m'étais toujours vécue comme une individu. Bon, et on me renvoyait assez peu à mon genre durant mes études, voire jamais. Et là, au travail, en entreprise, là, directement, mes premiers entretiens d'embauche étaient d'un sexisme hallucinant, où on me demandait si je comptais faire des enfants, quand. Et je sais pas, non. Je comprenais même pas ce qu'on me voulait. Je ne comprenais rien. Là, c'était vraiment aussi avoir un rendez-vous en terrain connu, quoi. Des remarques sur mon physique, tout le temps. Parce que là, on est obligé de côtoyer ce que je l'appelais à l'époque des vieux. Donc, c'est-à-dire que j'avais 22 ans et il y avait des mecs de 50, 60 qui me faisaient du rentre-dedans. Ça n'arrive pas dans les études. Très peu, en tout cas. Parfois, certains profs, ils sont quand même en minorité. Et là, tout à coup, on est dans un environnement où les mecs de 60 ans sont une majorité. Et donc, une nénette comme moi de 22 ans qui arrive, c'est... Pense-t-il un oiseau pour le chat ? Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on est traité, comme une oie blanche, comme une éternelle stagiaire. Et là, c'est vraiment un truc, ça a été un wake-up call de « Ah ouais, en fait, ouais, non, bah, tu crois que tu vas pouvoir échapper au sexisme toute ta vie ?» Non. Là, les règles ont changé. Voilà, on pense pouvoir dynamiter le système de l'intérieur, ou en tout cas le changer. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit « Ben non, en fait, ça n'arrivera pas. » Il y a trop de cohésion à l'intérieur du système. Il ne change pas, voire il se durcit en notre défaveur. Donc, vers 35 ans, je l'ai progressivement déserté. Donc, aujourd'hui, je me considère encore comme journaliste, mais je ne travaille plus en rédaction. Je m'appelle Myriam, j'écris pour vivre et je vis pour écrire des romans, des pièces de théâtre, des scénarios. Enfin, tout ce qui est possible d'écrire, j'essaye de l'écrire. Parfois, j'écris à la commande. On me dit, voilà, on veut développer tel format, adapter une de tes pièces de théâtre en long métrage. Est-ce que tu veux te charger de l'adaptation? Un de tes textes au théâtre, et je me charge l'adaptation aussi. Donc, voilà, il y a parfois des guidelines qui me sont extérieures et qui me sont imposées, entre guillemets, par le diffuseur, par exemple. Ici, là, je développe une série pour la RTBF. Et donc, la RTBF a évidemment plus que son mot à dire dans ce que j'écris, puisque c'est la RTBF qui doit assumer quand même beaucoup de risques, notamment financiers, et puis la diffusion de la série, si on va jusqu'au bout du processus, parce qu'on peut être arrêté à tout moment, c'est un processus par étapes. Donc là, en fait, c'est plutôt eux qui décident de la rythmique, quand je vais écrire, de comment je vais écrire. C'est pas simple, hein, surtout pour l'écriture de série, là, parce qu'on doit écrire d'abord des arches, puis on doit attendre des semaines qu'un jury nous réponde. Puis si le jury répond oui, et ben voilà, on s'engage dans la suite. On travaille avec une intensité folle pendant quelques mois, et puis de nouveau, on doit s'arrêter pendant 3 mois. Et puis voilà, donc c'est vraiment comme un embouteillage, quoi. On avance, et puis paf, non, on n'avance plus. Et donc ça peut rendre un peu zinzin, quand même. Chaque œuvre devrait être accompagnée de son petit making-of. Et qu'on voit à quel point on a succulé, transpiré, dû se battre, défoncer des portes, accepter certains coups aussi, dû faire parfois des compromis, parce que si on ne fait pas le compromis, le projet n'existe pas. Et jusqu'où on va dans le compromis c'est tout l'enjeu aussi que pose l'écriture d'une série télé pour un média grand public. C'est que si on ne fait pas le compromis, la série n'existe pas. Et ça fait 2 ans de travail pour rien. Mais si on fait trop de compromis, bah, notre parole n'existe pas. Et ça fait 2 ans de travail pour rien. Voilà, il faut avoir les pronostics en tête, je crois, quand on écrit à la commande pour un diffuseur très grand public. Et quand on décide d'aller contre, ah bah alors il faut assumer qu'à la fin, peut-être qu'on nous dira non. Et ce que je fais là pour l'instant, c'est que je vais au bout de ce que je trouve nécessaire, que je lâche du lest sur ce qui est capital pour eux, mais pas sur ce qui est capital pour moi. Et on va voir à la fin si nos envies se rencontrent. Mais au moins, il n'y aura pas de regrets, parce que j'aurais été hyper sincère et j'aurais fait du mieux que je peux. Enfin, voilà. Les accords Toltec, je trouve que quand on écrit, quand on est artiste, c'est intéressant de les lire souvent. Il y en a 4, mais je sais qu'il y en a certains que je n'applique pas. Mais il y a ne jamais rien prendre personnellement et faire du mieux qu'on peut. Quoi. Je pense que ça doit vraiment être nos boussoles. Quand on est artiste, ne jamais rien prendre personnellement, parce que ce que disent les institutions, ce que disent les faiseurs de gloire, ceux qui attribuent des bourses, ça t'est pas destiné à toi, ils te connaissent pas, ils sont pas dans ta famille, et c'est pas, voilà, c'est pas tes ex ou tes amis. C'est adressé à ce que tu représentes, à ce qu'ils croient que tu es. Donc ne jamais rien prendre personnellement et faire du mieux qu'on peut. Voilà, on a que ça. Un truc qui m'a vachement aidée à appliquer les accords Toltec dans ma vie. Et je ne dis pas que c'est une chance, hein, loin de là, mais peut-être que ça a été un accélérateur de sagesse. C'est l'énorme raid que j'ai vécu en 2013 après avoir fait une chronique sur Dieudonné, où j'ai eu des dizaines de milliers de menaces de mort et de viols et d'insultes. Et en fait, c'était que des inconnus qui ne savaient pas qui j'étais, parce que je n'étais pas du tout connue en France avant de décider de m'insulter. Et qui m'insultait, qui me menaçait en me réduisant à mes orifices. En fait, c'était que de la haine du féminin qui s'exprimait. C'était pas de la haine de moi, ils savaient pas qui j'étais. Et donc, c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, donc c'est la haine d'un groupe social contre un autre groupe social, quoi. C'est que ça. Et quelque part, je me suis dit, ah bah ouais, enfin, c'est pas moi, c'est ce qu'ils croient que je suis. C'est la tête farcie de clichés et de haine ordinaire ou moins ordinaire. Et cet enseignement-là, bah, je le prends. Tous les autres pans de la vie. Je le prends quand je reçois une lettre de refus, quand on me parle mal dans un jury. Voilà, je dis, c'est pas moi, c'est pas toi qui me parle. C'est ton groupe qui parle à mon groupe. Mes projets à moi qui me permettent d'écrire selon mon rythme et qui m'apporte le plus de satisfaction, ce sont les romans, où là, j'ai la liberté pratiquement absolue. J'écris quand ça m'arrange, quand ça me vient, quand je suis inspirée. Parfois, je ne suis pas inspirée pendant longtemps, et parfois, je suis inspirée 23 heures par jour. Mais aussi, le risque, c'est qu'à la fin, on se prenne un mur. Parce que ça vient de m'arriver, là, je viens d'écrire quelque chose, sans l'avoir montré non plus à mon éditrice avant, parce que j'aime pas montrer avant que ce soit presque prêt. Et elle m'a dit, c'est super, c'est hyper bien écrit, c'est effrayant, tant c'est drôle, mais c'est beaucoup trop trash, personne ne veut lire un truc pareil. C'était un projet sur l'extrême droite. Et voilà, elle me dit que le seuil ne pourra pas m'accompagner dans la publication d'un livre pareil. Voilà, donc il y a des arbitrages à faire et c'est pas simple, mais c'est passionnant, parce que ça nous force à nous poser la question en permanence de pourquoi je me bats, quoi, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'aujourd'hui je trouve vital d'exprimer. Alors je pense qu'il y a un rien trop tôt, ou alors un rien trop tard, parce que vu que la société s'est quand même tellement droitisée que maintenant c'est plus difficile de dénoncer ce que je dénonce, je crois, dans le manuscrit. Et on risque d'être moins bien reçu, ou en tout cas avec une patte et des clous. Mais moi, je pense qu'il faut le faire maintenant. Et je pense qu'il faut le faire crade, et qu'il faut le faire trash, et qu'il faut que ce soit diffusé à grande échelle. Et je pense que ce que je dis dans le livre, puisque ça a une valeur quasi documentaire, puisqu'en fait, ces mecs-là dont je parle, je les connais très bien. Je les connais très bien parce que j'en ai fait les frais, et j'en fais encore les frais aujourd'hui. Donc je pense que ça a une valeur documentaire, et que ça vaudrait la peine de les montrer à la plus large audience possible, mais c'est clair qu'on n'est pas dans un trend qui rend les choses faciles sur ce sujet. Comme toute femme qui apparaît dans l'espace public et qui en plus se pique d'avoir des opinions, Bah, j'ai une bande de harceleurs collés au train depuis un peu plus de 10 ans, avec parfois des procès, parfois gagnés, parfois pas. Donc c'est le bruit de fond de mon existence, quoi. Et j'essaye que ça reste un bruit de fond assez lointain, que ça ne prenne pas plus de place que ça. Maintenant, comme mes harceleurs médiatisent les actions en justice que je fais contre eux, c'est difficile que ça reste vraiment très accessoire et très lointain dans ma vie, puisque eux font beaucoup de bruit autour de ça, mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, ce serait dans un... ça se débattrait dans une armoire et ça n'en sortirait que pour les audiences et les jugements.
Il s'appelait Denis. Il était enchanté. Nous ne nous connaissions pas, enfin de toute évidence, je ne le connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j'étais. Il m'écoutait à la radio, il appréciait beaucoup mon travail, qu'il suivait de près et sur lequel il pouvait même se poser en exégète, lol. Raison pour laquelle il se permettait cette intrusion sur Facebook, en espérant qu'elle ne me gêne pas. Il me trouvait très charmante, vraiment, et pas seulement jolie d'ailleurs. Il y avait dans mon regard comme une fêlure, une brisure. Il ne savait comment dire, mais il y avait au fond de mes prunelles quelque chose de triste, qui avait piqué sa curiosité. Que je ne me méprenne pas, surtout, il ne me faisait aucun gringue. Il était en couple depuis Perpète, et pour Perpète, en ménage, oui, émoji clin d'œil, et fier papa d'un fiston de 7 ans. Denis était employé administratif dans une entreprise pharmaceutique, un boulot relativement chiant, comme je pouvais m'en douter, mais plutôt bien payé, alors il restait là. Comme un gentil clébard à se faire ses 3000 balles par mois, presque un salaire de manager, alors qu'il n'avait aucun diplôme. Alors que l'école et lui, ça avait toujours fait 2, 3 même, MDR. Voilà pourquoi il s'estimait chanceux d'avoir trouvé ce job. Pourquoi il se tenait à carreau, lui qui avait pourtant un tempérament rebelle, lui qui avait donné du fil à retordre à l'autorité toute sa vie et qui se qualifiait encore aujourd'hui, à 49 balais, de sale gosse. Émoji. Tilleul.
Pour avoir fait un documentaire sur la question aussi, avoir rencontré pas mal de femmes qui vivaient la même situation, c'est intéressant de noter que les mots et les moyens utilisés pour nous attaquer sont les mêmes, alors qu'on ne fait pas du tout la même chose dans la vie et qu'on n'est pas du tout attaqué, même parfois dans les mêmes pays. Mais donc il y a quand même une pauvreté, une uniformité des techniques, ce qui montre bien que c'est systémique et que ce n'est que ça. Tout raconte, et moi aussi, hein, développer des comportements d'évitement et des phobies sociales, et par exemple avoir de grandes difficultés à évoluer dans les transports en commun, et avoir des troubles paniques très invalidants et très fatigants. Donc voilà. Clairement, le corps somatise, et même parfois de manière assez littérale, et les yeux, les oreilles, enfin, toutes les interfaces entre soi et le monde sont attaquées, et... et c'est ce que je raconte dans mon deuxième roman, Les yeux rouges. On a tort de dire que c'est du harcèlement sur Internet ou que ce serait du harcèlement virtuel, parce qu'en fait, le harcèlement, il est pas du tout virtuel, il est pas du tout sur Internet, il est via Internet. Mais c'est toi, c'est ton corps, c'est ton corps le premier assiégé. Et ça s'appelle Les yeux rouges parce que la narratrice développe des problèmes de santé qui se traduisent notamment par les yeux. Le documentaire, c'est Hashtag Salpute que j'ai réalisé avec Florence Henault, qui est sorti en 2021 et qui est un film basé sur le discours, ce qu'il nous fait et comment est-ce qu'on le métabolise et comment est-ce qu'on le renvoie. Ça n'a pas du tout été un film modeste, parce qu'on a eu un premier producteur avant de s'en séparer et d'aller plutôt choisir une équipe de femmes finalement. Et devant la commission, il avait demandé tellement peu d'argent que les membres du jury lui avaient dit « Mais c'est très modeste ce que vous réclamez, monsieur, comme bourse. » Et il a répondu « Oui, parce qu'en fait, c'est un film modeste. » Quand on veut faire un film, on doit logiquement prétendre à un financement, quoi, des subsides publics, privés. Enfin, voilà, on va chercher l'argent où on peut. Et disons que l'organisme qui, en général, arrose le plus les films en Belgique, ça s'appelle la commission du film. Et donc, c'est un organisme public, culturel, quoi. Donc, en fait, ce premier producteur, quelque part, il n'y croyait pas. Et vous pensez que ça allait passer en 10e partie de soirée sur la 8e chaîne de la RTBF. Et on n'a jamais autant tourné de notre vie qu'avec ce documentaire. C'est un film qui a fait le tour du monde et on n'a pas fini. Et c'est comme Les yeux rouges, mon roman sur le harcèlement. Il est sorti en 2019. Il s'est relativement bien vendu, mais il ne s'est jamais aussi bien vendu qu'aujourd'hui. Alors que c'est une anomalie totale. Et en matière documentaire et en matière de roman, on dit que la durée de vie d'un roman, en général, c'est 6 semaines. que si on n'en a pas vraiment parlé, que ça n'a pas vraiment percé après 6 semaines, c'est qu'on n'en parlera plus vraiment et que l'intérêt va se tarir. Et l'intérêt, non seulement il ne s'est jamais tari, mais il a augmenté. Donc c'est le public qui a fait vraiment le destin du livre. Et c'est un sujet qu'on a toujours cru pouvoir mettre sous le tapis, et notamment dans les écoles. Les professeurs sont hyper démunis par rapport au harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire, c'est principalement du cyberharcèlement. Parce que quand on parle de cyberharcèlement avec ma co-réalisatrice, il y a plein de gens qui font « Oui, ok, d'accord, le cyberharcèlement. Mais ce qui est vraiment important, c'est le harcèlement scolaire. » Mais tu crois que le harcèlement scolaire, ça se traduit comment? Par pigeon voyageur ou par joute par combat à l'épée dans la cour de récré? Ben non, ça passe par Internet aussi. Donc, nous avons, sans vraiment l'anticiper, on a créé un support pédagogique pour lequel on est tout le temps invité dans les classes. Et on y va très souvent, mais on se dit qu'on n'a pas fait quelque chose de totalement inutile, on n'a pas rajouté du bruit au bruit. Les idées que je vais travailler, c'est des idées que j'ai depuis des années, qui sont mes obsessions. Et puis tout à coup, je sais pas, il y a une idée qui nous traverse, un truc, une image, je sais pas, une couleur, et puis oh, ok, c'est maintenant, c'est ça. C'est maintenant, hop, je sors mon ordi, je sors en général mon téléphone, puisque c'est là-dessus que je jette les premières phrases de mes projets. Et c'est comme si tout à coup la pelote, voilà, on nous l'avait jetée dans la main, il y a un fil qui dépasse, et on tire sur le fil, et on voit s'il y a quelque chose qui vient, ou bien si c'est vite coupé. Mais qu'est-ce qui fait que, paf, à ce moment-là, l'idée qui était dans l'air, la pomme qui était dans l'arbre, on va la cueillir? Je n'en ai aucune idée et je peux passer de très longs mois à me dire comment, quelle forme ça va prendre, qu'est-ce que je veux vraiment raconter par là, qui adresse quoi à qui dans ce que j'écris. Et puis à un moment donné, la question ne se pose même plus puisque la pomme tombe de l'arbre et eureka. Au début d'un projet, ça bosse à fond. Puis ça commence à se, je sais pas, à connaître des hésitations, des doutes, et puis même parfois remiser le projet au placard. Puis je le reprends, et là c'est le diesel. Et puis sur la fin, là par exemple, pour la série que je suis en train d'écrire, ça bosse vraiment dans des proportions vraiment malsaines pour le corps, où à 4h du matin je suis encore dessus, les yeux écarquillés. Mais c'est comme ça pour tout, quoi. Mes romans, sur la fin, je suis là... éveillé la nuit, presque comme si j'avais pris des drogues, obsessionnellement dessus. Ben voilà, c'est ma manière de travailler. Moi, j'aime bien le retravail. La création pure, en fait, de zéro, c'est pas tellement là où je prends le plus de plaisir et où je me sens le plus à mon aise. Moi, c'est vraiment les finitions, les petits déplacements de virgule. Là, je kiffe, quoi, vraiment. Alors, j'écris sur des sujets très personnels, mais je les embrasse rarement en jeu. Ouais, y a toujours un procédé de mise à distance qui me permet de raconter ces sujets. J'ai encore jamais fait l'exercice de l'hypersincérité au jeu. Il y a parfois des petits chapitres, comme dans Le mystère de la femme sans tête, mon dernier livre. Les passages qui parlent vraiment de moi, ils sont écrits au tu, c'est ça, mon entourloupe pour pouvoir dire je. Parce qu'en jeu, j'arrive pas, ça me vient pas, c'est pas juste. C'est comme si je chantais faux une chanson. C'est bizarre. Hein. Il faudrait que j'aille voir en psychologie, psychiatrie, psychanalyse, ce que ça veut dire. Mais il y a toujours une torsion chez moi. Il me faut passer par de la mise en scène, la mise en fiction, pour que les choses soient intéressantes dramaturgiquement et aller harponner le lecteur. Donc voilà. Donc pour l'instant, moi, j'écris sur des choses très réelles. Mais pour qu'elles soient vraies, j'ai pris le pli de ne pas essayer l'exactitude. Ce que moi je fais et qui me semble être faire féminisme dans ce que j'écris, alors bon, déjà il y a beaucoup de gens qui confondent et qui me disent « Oui, vous écrivez des livres sur le féminisme ». Pas du tout, j'écris des livres sur le sexisme. Je raconte le sexisme, je documente en fait le sexisme et je documente l'ère du temps qui est sexiste, forcément. Mon premier livre, Ariane, raconte une amitié toxique entre deux adolescentes. Mais ce qui est féministe là-dedans, c'est de visibiliser les injonctions de l'époque et de visibiliser des personnages féminins qui n'ont pas fantasmé sous un œil masculin. Moi, je pense que c'est ça aussi que je fais, c'est que j'essaye d'avoir, et c'est pas facile parce que, en fait, c'est pas comme ça que notre regard a été éduqué, mais d'avoir un female gaze et de montrer des vraies personnes et de les regarder comme étant des sujets de leur histoire et pas uniquement des objets fantasmés sous un œil masculin. Dans Le mystère de la femme sans tête, mon dernier roman, le personnage féminin est rarement décrit physiquement. Et quand elle est décrite physiquement, elle n'est jamais sexualisée. On parle de ses grosses joues, de sa petite taille, de son petit gabarit. Par contre, elle est très désirante, cette femme, en tout cas dans la manière dont je l'écris. Et les corps masculins, eux, sont fantasmés sous son regard. On est dans son désir à elle. Et si quelqu'un est objectifié dans le récit, c'est son mari, c'est pas elle. C'est l'histoire d'une femme décapitée dans les années 40 après avoir endossé la responsabilité d'un attentat au couteau contre un fonctionnaire d'occupation allemand. Et c'est l'histoire vraie d'une femme dont j'ai découvert le destin en tombant sur sa tombe au cimetière d'Ixelles. Et voilà, bon, c'est ça, moi. Et ailleurs aussi, est-ce que personne ne remarque, c'est parce que l'autre jour j'ai reçu un mail d'un gars qui m'en engueulait parce que dans les remerciements j'ai écrit « Toustes ». Merci à Toustes, celle-le. Et là, c'est dégueulasse, c'est écriture inclusive, c'est laid, comment est-ce que tu peux, toi, alors que ton livre est si bien écrit, tout à coup, patatras, dans les remerciements, chuté. J'ai répondu qu'en fait, tout le livre a été écrit en écriture inclusive, c'est juste qu'il ne le voit pas. Et ça, c'est bien la preuve, son mail, que ceux qui disent « Ah, l'écriture inclusive, ça m'écorche les yeux », non, mais ça ne t'écorche les yeux qu'à certains endroits, c'est que quand elle est visible. Mais donc c'est le point médian, mais il y a une confusion énorme entre toutes les possibilités de l'écriture inclusive et le point médian ou la novlangue, qui, moi, m'arrange bien hein, dans les conversations privées. J'utilise vachement le point médian et les nouveaux termes qui permettent d'inclure tout le monde. Mais dans le livre, qui se passe dans les années 40, ça n'aurait aucun sens de mettre un point médian et des mots qui n'existaient pas à l'époque. Moi, j'y suis restée dans le lexique et le vocabulaire de l'époque. C'est juste que j'ai voulu valoriser un regard féminin et ça passait par des termes épicènes, notamment. En ce moment, je suis assez fatiguée parce qu'il y a énormément d'échéances artistiques. Je dois remettre le séquencier de ma série. J'ai écrit un roman pour les personnes adultes qui apprennent à lire, qui va bientôt sortir. J'ai ce manga là, dont je dois livrer des épisodes. Là, il y en a 6 qui sont sortis, mais il y en aura 20 et tous ne sont pas terminés. J'ai un scénario de long métrage sur le feu. Et puis, il va falloir que je vois ce que je vais faire avec ce manuscrit qui a été refusé par ma maison d'édition parce que je ne compte pas le laisser mourir là. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Beaucoup de dates, beaucoup d'échéances. Et donc j'ai hâte d'avoir ne fût-ce que un week-end de jachère mentale. Ce qu'on ne réalise pas aussi, c'est que le public il a accès qu'aux choses qui ont été faites et qui ont été publiées, qui ont été réalisées. Mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et en dessous, il y a des kilomètres de projets qui ont été rejetés, parfois avec violence, d'endroits où on a été humilié. Parce que ce n'est pas tout de te refuser un projet. Il faut te dire que tu n'as aucun talent pour défendre ce projet et que ce projet n'a aucun intérêt. C'est des refus et des portes qui claquent dans tous les sens. C'est même des mecs, parce que c'est des mecs, hein, qui tu envoies des textes et tu te dis bah, ça fait quand même, je sais pas, 15, 20 ans que je suis dans le milieu, que j'ai quand même une petite notoriété dans le monde culturel belge. On sait qui je suis, on peut tout à fait ne pas apprécier ce que je fais, hein, c'est pas ça, mais quand on t'envoie un texte, tu penses que le texte peut être lu, surtout quand il est court. On te lit même pas. Donc les gens croient, parce qu'ils voient fréquemment des choses sortir, que l'usine fonctionne bien et que c'est facile et que tout est bien huilé, mais ils ne se rendent pas compte de la lutte quoi, mais continuelle pour essayer d'intéresser les gens, d'être bien traités et de démouler ce qu'on a à dire avec le plus de sincérité possible. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est la lutte, quoi. C'est fatigant. Moi, je trouve qu'on devrait se... Alors, on n'a pas encore le luxe de faire ça, parce qu'il y a très peu de femmes qui sont dans des positions dominantes dans le milieu culturel belge, de plus en plus. Mais on devrait faire des prix, des jurys, créer des trucs. Pourquoi est-ce que c'est des vieux prix ancestraux d'il y a 200 ans, avec des règlements d'il y a 2000 ans et des... Pourquoi est-ce qu'on fait pas, on se fédère pas pour que ce soit, et pas des prix de femme à femme nécessairement, mais que ce soit des profils contemporains avec des idéaux alignés avec les valeurs d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous, on créerait pas des manières de se mettre en valeur et que ça devienne des prix importants, quoi, avec le temps. Ça commence, hein, je veux dire, il y a le prix des grenades, par exemple, mais c'est trop peu. On devrait créer des endroits où on se met en valeur et quitte à reproduire tout ce qu'on reproche à ceux qui nous précèdent, hein, c'est-à-dire se renvoyer des ascenseurs et se donner des prix les unes les autres, bah pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement? Un jour, ça s'équilibrera, mais allons-y, quoi. Et alors, je vois quand même beaucoup de gens qui voudraient avoir les honneurs sans les claques. Eh bien, bonne chance. Voilà. Ouais. Bah oui, je comprends. Mais bon, voilà, ça vient. S'il y a un package et s'il y a des choses positives dans le package, de temps en temps, une fois toutes les lunes, eh ben je les prends.
Sous la plume de Myriam Leroy. À chaque jour suffit sa reine. Merci à Myriam pour la rencontre. C'était un podcast produit par Axel Magazine. Réalisation, montage, mixage, Corinne Ricuor. Participation éditoriale, Sabine Panet. Générique, Marielle Van Camp. Extrait musical, Mr. Key, Le Silence Rouge. Lecture extrait du roman Les yeux rouges par Myriam Leroy. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be.